Bienvenue dans le débat. Aujourd'hui, on va parler de l'année 2005. À l'époque, le gouvernement français s'est dit que enfermer l'avenir du projet européen dans, 448 articles de loi rassurerait tout le monde.
Spoiler, ça ne s'est pas vraiment passé comme ça.
Exactement. Ce fut même l'une des erreurs stratégiques les plus spectaculaires de la Ve République. Avec une participation massive, genre plus de 69%, la France a rejeté la Constitution européenne à 54,67%.
Un vrai séisme politique.
Voilà. Et le pays a littéralement été court-circuité. Donc, la question qu'on explore aujourd'hui, c'est ce résultat historique, est-ce que c'est avant tout l'échec tactique d'un exécutif mal préparé ou bien l'expression d'une fracture sociologique beaucoup plus profonde? Moi, je soutiens que c'est fondamentalement un désastre de communication. Une erreur de calcul politique, quoi.
Eh bien, je ne partage pas du tout ce diagnostic. Pour moi, on est face à un rejet populaire viscéral du modèle économique européen. C'est une lame de fond, en fait, qui va bien au-delà d'une simple campagne ratée.
Alors, pour comprendre la mécanique de cet échec tactique, imaginez le lancement d'une mise à jour logicielle majeure. Les développeurs vendent des nouvelles fonctionnalités géniales, mais par souci de transparence totale, ils publient tout le code source.
Ah, la fameuse erreur de trop en dire.
C'est ça. Les utilisateurs l'ouvrent et y trouvent des failles complètement angoissantes. C'est exactement ce qu'a fait Jacques Chirac. Voulant rejouer le succès de Maastricht de 92, il a envoyé l'intégralité du texte aux 42 millions d'électeurs.
Ce qui est une approche très naïve.
Complètement. Le débat est instantanément passé d'un idéal émotionnel d'unité à un audit technique ultra anxiogène. En lisant l'objectif de, je cite, « concurrence libre et non faussée », les électeurs ont pris peur. Le gouvernement a littéralement envoyé des munitions par la poste à ses opposants.
Non mais c'est vrai. Sauf que réduire ce vote à une crise d'anxiété face à un texte juridique, ça occulte complètement la réalité sociologique des résultats officiels.
Comment ça?
Regardez les chiffres. 79% des ouvriers et 67% des employés ont voté non.
Ouais, les chiffres de l'époque sont assez frappants.
Ce bloc n'a pas rejeté la Constitution parce qu'il a mal digéré le jargon administratif. Il a voté contre une réalité très concrète, c'est-à-dire les délocalisations industrielles et la pression insoutenable sur les services publics. Les lecteurs ne réagissaient pas à un texte mal expliqué, mais à une précarité bien réelle.
Je suis d'accord sur la précarité, mais elle a été exploitée dans une bataille des récits totalement asymétrique.
C'est-à-dire?
Eh bien, le camp du oui cumulait genre 70% du temps de parole à la télé. Mais il proposait des concepts géopolitiques hyper abstraits, comme l'influence et le poids de la France dans le monde. Or, une grande leçon politique s'impose. Les référendums se gagnent sur les angoisses du quotidien, pas sur des abstractions.
Tout à fait.
Et le camp du non l'a très bien compris en imposant l'image redoutablement efficace du plombier polonais. Vous savez, avec la directive Bolkestein. Cette angoisse de voir une main-d'œuvre moins chère venant d'Europe de l'Est s'imposer localement, ça a balayé les grands discours du gouvernement.
J'aborde la question d'une manière différente. Parce que cette crainte du dumping social, cette idée que la pression étrangère allait détruire les salaires locaux, ce n'était pas qu'une simple astuce de communication.
Vous pensez que c'était plus profond que ça?
Absolument. Elle s'est incarnée dans un véritable séisme politique. Prenez Laurent Fabius, la figure suprême de l'establishment socialiste. Il décide de faire campagne pour le non.
Ce qui était impensable à l'époque.
Totalement. Il se retrouve de facto aligné avec l'extrême gauche de la LCR, tout en votant comme les souverainistes de droite de Vieillet ou l'extrême droite de Le Pen. C'était un court-circuit total du clivage traditionnel gauche-droite. Fin, Fabius a emporté plus de la moitié des sympathisants de son propre parti. C'est bien la preuve d'un mouvement profond, pas juste d'une défaite marketing.
C'est un point intéressant, mais je le formulerai autrement. Ce fameux séisme politique n'a pas tué le projet, ce qui démontre bien que l'échec de 2005 était avant tout une affaire de méthode.
Ah bon, vous trouvez?
Oui, regardez la suite. Nicolas Sarkozy a parfaitement sauvé l'essentiel du texte avec le traité de Lisbonne en 2008.
En passant en force, oui.
Il a repris le fond de la Constitution, a retiré les symboles étatiques qui enflammaient le débat public, et il a fait ratifier le tout par le Congrès avec une écrasante majorité, 560 voix contre 181. Ce pragmatisme de l'exécutif prouve que le fond était viable si la manœuvre était exécutée intelligemment.
Vous appelez cela un succès pragmatique, vous ? Contourner les 15,4 millions de voix du non en passant par la voie parlementaire, c'est l'origine même d'un traumatisme démocratique majeur.
Le mot est fort.
Mais c'est une réalité, hein. Les citoyens ont dit non, et 2 ans et demi plus tard, leurs représentants ont dit oui au même projet. Ça n'a pas prouvé que le texte était viable, ça a ancré l'idée durable que les institutions européennes échappent structurellement à tout contrôle démocratique. C'est une véritable violence institutionnelle.
Bon, en résumé, on examine ce tournant historique sous deux prismes bien différents. De mon côté, je maintiens qu'il s'agit d'une erreur de calcul politique, aux conséquences durables prouvant qu'on ne gère pas un référendum avec des abstractions.
Et moi, je reste convaincu qu'il s'agissait d'une véritable cassure sociologique, un rejet conscient du libéralisme économique par les classes populaires que le pouvoir a tragiquement choisi d'ignorer.
On est au moins d'accord sur un point, c'est que la cicatrice ouverte entre le peuple et ses élus, ce jour-là, elle ne s'est jamais véritablement refermée.
Le greffe est en effet toujours à vif.
C'est donc à vous, chers auditeurs, de tirer vos propres conclusions sur la manière dont ce référendum de 2005 continue de façonner nos fractures politiques actuelles. Merci de nous avoir rejoints.
À bientôt.